L'impatience d'être veuf.
Chaque roi, chaque homme a ses plaisirs qui, mieux que toute autre chose, révèlent les tendances profondes de sa nature. Louis X montrait peu d'inclination à la chasse, aux joutes, aux passes d'armes et, de façon générale, à aucun exercice où il risquait blessure. Il aimait depuis l'enfance la longue paume qui se jouait avec des balles de cuir, mais il s'y essoufflait et échauffait trop vite. Son divertissement préféré consistait à s'installer un arc à la main dans un jardin fermé et à tirer au vol, de fort près, des oiseaux, pigeons ou colombes qu'un écuyer laissait l'un après l'autre échapper d'un grand panier d'osier. Profitant de l'allongement du jour, il était occupé à ce délassement cruel dans une petite cour de Vincennes disposée comme un cloître, lorsque son oncle et son cousin en fin d'après-midi lui amenèrent l'archevêque. L'herbe verte et rase qui couvrait le sol de la cour était souillée de plumes et de sang. Une colombe, clouée par l'aile à une poutre du déambulatoire, continuait de se débattre et criait. D'autres, mieux atteintes, gisaient éparses, leurs pattes minces roidies et crispées. Le hutin poussait une exclamation de joie chaque fois qu'une de ses flèches perçait un oiseau. « Une autre !» lançait-il aussitôt à l'écuyer. Si la flèche manquait son but, à laisser pointer sur un mur, Louis reprochait alors à l'écuyer d'avoir lâché la colombe au mauvais instant ou du mauvais côté. « Sire, mon neveu, dit Charles de Valois, vous me paraissez plus habile aujourd'hui que jamais. Mais si vous consentiez à interrompre un instant vos exploits, je pourrais vous entretenir des choses bien graves que je vous ai annoncées. « Quoi ? Qu'est-ce encore ? » dit le hutin avec impatience. Il avait le front moite et les pommettes rouges. Il aperçut l'archevêque et fit signe à l'écuyer de s'éloigner. « Alors, monseigneur, dit-il en s'adressant au prélat, est-il vrai que vous m'empêchiez d'avoir un pape ?»« Hélas, sire, répondit Jean de Marigny, je viens vous faire révélation de certaines choses que je croyais commandées par vous et dont je suis durement peiné d'apprendre qu'elles sont contraires à votre volonté. » Là-dessus, avec l'air de la meilleure foi du monde et quelque emphase dans le ton, il rapporta au roi les manœuvres d'Enguerrand pour retarder la réunion du conclave et faire échec à toute candidature, aussi bien celle de Duez que celle d'un cardinal romain. « Si dur qu'il soit, sire, acheva-t-il, d'avoir à vous découvrir les mauvais actes de mon frère, il m'est plus dur encore de le voir agir contre le bien du royaume, en même temps que celui de l'Église, et s'appliquer à trahir tout ensemble son Seigneur sur la terre et le Seigneur du ciel. Je ne le tiens plus pour étant de ma famille, puisque, quand on est homme de mon état, on n'a de vraie famille qu'en Dieu et en son roi. Le bougre arriverait pour un peu à vous tirer les larmes, pensait Robert d'Artois. Vraiment, ce coquin-là sait se servir de sa langue. Une colombe oubliée s'était posée sur la toiture de la galerie. Le hutin tira une flèche qui, traversant l'oiseau, fit bouger les tuiles. Puis, soudain s'emportant, il cria « À quoi donc cela me sert-il ? Ce que vous me chantez là, il est bien temps de dénoncer le mal quand il est accompli. Fuyez, messire archevêque, car je me courrousse !» Robert d'Artois entraîna l'archevêque dont la besogne était terminée. Valois resta seul avec le roi. « Me voici en belle posture à présent, » continuait celui-ci. « Enguerrand m'a trompé, soit !» Et vous triomphez, mais cela m'avance-t-il, moi, que vous triomphiez? Nous sommes au milieu d'avril, l'été s'approche. Vous vous rappelez, mon oncle, les conditions de Madame de Hongrie. Avant l'été, d'ici à 8 semaines, m'aurez-vous fait un pape?
Honnêtement, mon neveu, je ne le crois plus possible.
Alors il n'y a point motif à vous faire si gros et tant vous rengorger. Je vous avais assez conseillé depuis l'hiver de chasser Marigny. Mais puisque cela ne fut pas, hurla Louis X, le mieux n'est-il pas encore d'employer Marigny? Je m'en vais l'appeler, le semoncer, le menacer, il faudra bien qu'il obéisse à la Parfum. »
Aussi enragé que têtu, le hutin en revenait toujours à Marigny comme à l'unique recours. Il arpentait la cour à grands pas désordonnés, des plumes blanches collées sur ses souliers. En vérité, chacun avait si bien poussé son jeu personnel, le roi, Marigny, Valois, D'Artois, Ptolemy, les cardinaux, la reine de Naples elle-même, que tout le monde se retrouvait bloqué dans une impasse, se meurtrissant réciproquement, mais sans plus pouvoir avancer d'un pas. Valois s'en rendait bien compte, comme il se rendait compte aussi qu'il lui fallait, s'il voulait garder l'avantage, fournir à tout prix un moyen d'issue, et le fournir vite.
« Ah, vraiment, mon neveu, s'écria-t-il, quand je pense que j'ai été veuf par 2 fois en ma vie, et de 2 épouses exemplaires, je me dis que c'est bien grande pitié que vous ne le soyez point d'une femme éhontée. Certes, certes, dit Louis. Si cette gueuse pouvait seulement trépasser.
Brusquement, il s'arrêta de marcher, regarda Valois, et comprit que celui-ci n'avait pas seulement parlé par boutade ou pour déplorer les injustices du sort.